Alors, j'avais dit la fois passée, le dimanche passé, que le thème de cette année, c'est servir mon église locale. Alors, servir mon église locale, pourquoi est-ce que j'ai proposé ce thème? J'ai expliqué la fois passée que c'est un thème qui correspond avec certaines questions, certaines demandes qui ont été faites ici, notamment en Assemblée générale, où des plus jeunes et de ceux qui sont peut-être pas, qui n'ont peut-être pas vraiment un engagement dans l'Église, ont demandé, mais ça correspond à quoi d'être ancien, d'être diacre dans l'Église, etc. Et d'une manière générale, c'était la question de, mais comment ça fonctionne? Comment on sert le Seigneur dans l'Église? Et je me suis dit, ah, voilà un thème qui serait intéressant tout au long de cette année de pouvoir revisiter pour ceux qui connaissent et de pouvoir découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, ce sera le thème qui va prédominer donc jusqu'en septembre, Dieu voulant donc l'année prochaine. Et ça tombe bien parce que l'année prochaine, c'est l'année Luther, les 500 ans de la réforme de Luther. Et donc tout au long de ce temps, nous allons avoir plusieurs messages et réflexions autour de la question du service dans l'Église. Alors, j'ai, en guise d'introduction, la fois passée, dit que servir dans l'Église, c'est servir Dieu dans son Église. Parce que ce n'est ni l'Église, ni nous qui nous appartenons, c'est Dieu. Et j'ai dit aussi que servir Dieu est inscrit dans notre propre programme spirituel de vie. Nous devenons chrétiens et nous avons une double vocation en tant que chrétiens que nous devenons, celle à la fois d'être enfant de Dieu, membre de la famille de Dieu, frère et sœur des autres dans la communauté. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, nous faisons partie d'un peuple que Dieu s'est acquis pour qu'il annonce les vertus de sa gloire, pour qu'il l'annonce, parle de lui. Et donc, forcément, automatiquement, dès qu'on est chrétien, on est mis au service de Dieu, au service de Sa Majesté, le Roi des Rois. Nous sommes, dès notre nouvelle naissance, automatiquement des fonctionnaires. Alors, ça sous-entend l'idée que, évidemment, quand je deviens chrétien, c'est pas pour devenir une espèce de récipiendaire. Vous voyez, ça me fait toujours rire, là, les images avec les petits oiseaux, les oiseaux, quand ils sont encore tout petits, et qu'ils ont toujours leur bec vers le ciel, là, en attendant la nourriture, et alors la maman vient, elle dans une volée, elle est nourrie, et puis elle repart, et alors elles sont tout le temps la bouche ouverte. On n'est pas ça. On n'est pas que des simples récipiendaires pour recevoir, recevoir, recevoir. Ça fait des chrétiens spectateurs qui sont toujours en train de protester, de réclamer. On n'a pas fait ça pour moi. On m'a pas visité. On m'a pas aimé. On m'a pas donné. On ne m'a pas. Moi. Et l'autre. Alors, les autres, non. Je suis chrétien pour moi d'abord. Non. Je suis chrétien pour que moi je m'épanouisse, mais aussi que les autres s'épanouissent et que j'en sois moi un moyen pour l'épanouissement de ces autres-là. J'avais dit donc que c'était inscrit dans notre programme de salut et que c'est donc important de comprendre que servir Dieu, c'est pas juste un truc qu'on nous propose. Voulez-vous bien servir? Oui, je veux bien. Voulez-vous bien servir? Non, je ne veux pas. Non, c'est pas une question de oui ou non, c'est une question de faire. Parce que c'est ça la volonté de Dieu, parce que c'est ça l'œuvre de Dieu. Ce matin, j'aimerais vous aborder donc c'est une série que je vais faire. J'aimerais aborder d'abord une série de questions, enfin une première question la question de mais qui peut servir dans l'Église locale? qui peut servir. Alors, imaginez une entreprise qui veut engager pour le boulot, allez, une entreprise de construction qui fait de la maçonnerie. Eh bien, s'ils veulent pouvoir tourner, la première chose qu'ils doivent faire, c'est quoi? C'est engager un maçon, non? Ça vous semble pas évident? Moi, oui, mais pas vous, apparemment. Ils doivent réfléchir, tout ça c'est fait, non, tout ça. Maintenant, ils doivent passer à l'action. S'ils n'ont pas de maçon, ils sont juste une entreprise de nom, hein. Il n'y aura rien qui va se faire parce que il faut quelqu'un qui soit, formé, qui soit capable de faire ce travail-là. Et donc, ils vont devoir définir le profil. Nous cherchons un maçon. Alors, il doit être grand, petit, jaune, vert, rouge. Il doit avoir des cheveux ébouriffés, la barbe, la moustache, peu importe. Et il doit être costaud, trapu, petit, etc. On décrit le profil. Et lorsqu'on a fait le profil, alors, on l'annonce et on recrute. L'œuvre de Dieu est une œuvre où nous sommes des serviteurs. Et donc, il faut que nous connaissions notre profil pour servir dans la maison de Dieu. Parce que si on ne connaît pas à quoi ressemble celui qui doit servir dans la maison de Dieu, on risque de rentrer là-dedans et de faire n'importe quoi, et de croire n'importe quoi, et d'agir avec désordre. Et parfois, dans l'œuvre de Dieu, souvent, le travail va mal, pas parce que les gens sont incompétents, mais parfois parce que les gens n'ont pas compris. C'est quel genre de travail, quel profil je dois avoir en tant que serviteur dans la maison de Dieu. Nous allons aborder donc ces choses en essayant d'apporter quelques éléments de réponse. Bien sûr, je vous ai dit la fois passée que le mot serviteur, le mot service, ce sont des mots qui sont répétés énormément dans la Bible. Servir est repris 493 fois. Le mot service, 193. Le mot serviteur, 950 fois. Donc, c'est montré, en plus, ça c'est une concordance moyenne qui me fait ce calcul-là. Donc je suppose qu'une belle grande concordance que Richard pourrait me procurer, eh bien, à mon avis, ça serait beaucoup plus encore. Vous voyez? Mais peut-être que, avant de continuer, nous avons besoin de la grâce du Seigneur. Inclinons-nous pour la prière. Pour chacun de nous, que nous recevions ce que Dieu va nous donner ce matin. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour la grâce que tu nous donnes d'ouvrir ta parole. Aide-nous à l'ouvrir avec sérieux, avec détermination de pouvoir te servir. Nous voulons être à toi, Seigneur, comme toi tu es à nous. Permets-nous de pouvoir être formés et de pouvoir aller de l'avant avec toi, au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est quoi l'église locale? Petit vocabulaire. L'église locale, c'est l'assemblée des chrétiens qui se réunit régulièrement dans un lieu, dans une région, dans un endroit. C'est ça l'église locale. Les chrétiens qui se rassemblent, qui forment une communauté à un endroit. Par exemple, ici à Ortigny, mais il y en a aussi à Charleroi-Marcinelle, il y en a aussi à Marchand-Famène, je suppose. Et il y a une église à Marchand-Famène, non, je ne sais pas. Ouais, c'est pas. Bon, il y a des églises, un peu partout, à Namur, hein, pour Thomas, c'est ça? Toi, c'est Joseph, voilà. Pour Joseph, je m'en sortirai pas. Il y a Thomas et Joseph là-bas. Depuis tantôt, je ne fais que les mélanger. Et à mon avis, ce sera parti pour une longue période. Hein. Donc, l'église locale, c'est une portion de l'église universelle. L'Église universelle, c'est ce que nous considérons comme étant le corps du Christ. Et donc, l'Église locale, si c'est une portion de l'Église universelle, ça veut dire que l'Église locale n'est pas qu'une simple organisation. C'est un organisme. Vous me suivez? Oui? Ceux qui connaissent la musique comprennent, mais peut-être que les autres ne comprennent pas. Pourquoi je parle d'organisme? Parce que on dit que le corps, l'Église universelle, c'est le corps du Christ. c'est-à-dire l'ensemble des croyants qui sont ensemble les uns les autres membres d'un seul corps dont la tête est Jésus-Christ. Et donc, c'est vivant, ça fonctionne, ça vit comme un organisme, c'est-à-dire comme un être vivant en quelque sorte. Donc l'Église, elle est vivante. Elle n'est pas qu'une simple organisation. Je fais la différence entre une organisation et un organisme pour mettre bien en avant que le spirituel, dans la manière dont l'Église est régie, est plus important que notre intelligence humaine, que ces choses que nous mettons en place humainement parlant. Alors, on y reviendra peut-être. Ce matin, je voudrais explorer les réponses possibles à la question du jour, qui peut servir dans une église locale. Alors, je vais juste donner deux éléments de réponse. Juste deux pour aujourd'hui. Nous poursuivrons, quand on aura encore l'occasion, les autres éléments de réponse prochainement. Deux éléments de réponse. Premier élément de réponse qui peut servir dans une église locale, c'est celui ou celle, c'est celui qui est chrétien ou celle qui est chrétienne. L'église fonctionne un peu comme une entreprise familiale, dans laquelle le chef de l'entreprise, c'est le Père, Dieu, le Père céleste. Chef d'entreprise, c'est son entreprise, c'est son église. C'est donc lui qui donne, qui répartit les fonctions et les rôles. C'est lui qui dit comment les choses doivent se faire. Je ne fonctionne pas dans une église en disant, moi aujourd'hui je décide que vous allez tous vous mettre à genoux par terre. Non! C'est le chef qui dit comment les choses sont. Et comment nous savons ce que le chef veut? On le sait à travers sa parole, la Bible. Donc l'église fonctionne comme une entreprise familiale dont le Père Céleste est l'entrepreneur, le chef d'entreprise. Chaque enfant, c'est-à-dire chaque personne née de nouveau, chaque personne qui s'est tournée à Christ, qui s'est convertie, eh ben, chaque personne est dévouée donc au service de Dieu. Et donc serviteur de Dieu, tout enfant de Dieu. C'est tout. Tout. Bien sûr. Ça peut faire un peu gratter la tête, puisque de nos jours, le mot « serviteur de Dieu » est un mot qui est parfois utilisé pour certains et pas pour d'autres. Quand vous allez dans certains milieux d'église, le mot « serviteur » est réservé aux grands hommes de l'église, aux pasteurs, aux apôtres, aux prophètes, enfin, tous ceux qui ont des titres incroyables. Mais pourtant, nous sommes tous, sans exception, au service de Dieu parce que Dieu veut que tous les chrétiens, sans exception, soient engagés, travaillent pour lui. Comme dans une entreprise familiale. Éphésiens chapitre 2, verset 10. On peut vite voir cela. Ça, on parle de Jésus, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres, regardez, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Chef d'entreprise, le soir avant le travail, a déjà dit, ça c'est la portion de tel, ça c'est la part du travail de tel, je veux que tel fasse ceci aujourd'hui, ou demain, ou qu'il ait ça comme tâche, etc. Dieu a déjà prévu du travail pour nous, les enfants, dès notre conversion. Un autre verset, 1 Thessaloniciens 1, verset 9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles, dans quel but? Pour servir le Dieu vivant et vrai. Ça, c'est le but. On ne se convertit pas simplement pour mettre sa vie en ordre et rentrer dans une dimension de paix avec Dieu, dans un rapport d'enfant de Dieu. On se convertit pour se mettre au service de Dieu, pour servir le Dieu vivant est vrai. Je pense que c'est ça qui s'est passé avec Caïn et Abel. Oh, qu'est-ce que je raconte? C'est ça qui s'est passé plutôt avec Adam et Ève. Dès qu'ils ont été créés, Dieu les a mis dans un jardin. Et dans ce jardin, ils avaient le rôle de le cultiver, de le développer, de l'améliorer, d'y travailler. D'y travailler. Mais ils n'y travaillaient pas comme si c'était eux les propriétaires. Mais ils y travaillaient comme étant eux les ouvriers de Dieu. Ils travaillaient ce jardin pour la gloire de Dieu. Certaines hypothèses théologiques vont jusqu'à dire que le jardin d'Éden, c'était le premier temple. Ça, c'est la spéculation. Hein. Je ferme la parenthèse vite. Mais l'idée qui est là, c'est que c'est une œuvre de Dieu. Et une œuvre dans laquelle Adam et Ève se retrouvent engagés. La tâche de Dieu, bien sûr, est multiple. Travailler pour Dieu, c'est il y a beaucoup de choses. Hein. C'est pour ça que, vous voyez, on a parfois des différents titres. On dit que nous sommes des ouvriers, on est des serviteurs, on est des ambassadeurs, des ministres. Tous ces titres sont des titres qui montrent que nous travaillons, nous servons le Seigneur. Et peut-être un des titres que je pense être le plus significatif dans notre rôle, c'est peut-être celui justement d'ambassadeur. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 21, nous allons le lire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné quoi? Le ministère. Le mot ministère ici peut être facilement remplacé par le mot service. C'est la même chose. Le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses et il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous faisons fonction d'ambassadeurs. C'est pour ça que Jésus va dire « Allez de toutes les nations, faites des disciples ». Notre rôle est de sortir et de représenter, de montrer qui est Jésus, que le visage, nous soyons en quelque sorte des visages que les hommes peuvent mettre sur qui est Dieu, qui est donc ce Dieu. Donc, voici donc le premier élément de réponse à cette question, qui peut servir dans une église locale? Pour servir dans une église locale, il faut être chrétien, né de nouveau. C'est peut-être ici l'occasion d'inviter tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore pris de décision pour Christ, peut-être l'occasion de pouvoir le faire. Si vous avez à cœur de servir dans le Seigneur, dans l'église, si vous avez à cœur d'être utile dans l'œuvre de Dieu, bien sûr, cela est d'abord en premier lieu pour ceux qui ont pris la décision de servir le Seigneur. Ça ne veut pas dire que ceux qui viennent et qui se disent « je suis encore à la recherche, je me cherche encore, je me tâte encore, je ne sais pas encore », ne peuvent pas être utiles, ils peuvent rendre service, bien sûr. Ils peuvent, mais la tâche, elle est d'abord, en premier lieu, réservée d'abord à ceux qui ont Jésus comme Seigneur. Et donc, tout serviteur est d'abord un fils de la maison qui travaille pour son Père céleste. Et il est plus qu'un simple serviteur. Mes amis, vous savez que les gens qui travaillent pour nous, nous avons tendance à les mépriser. Vous êtes d'accord avec moi? Quelqu'un qui vient faire le ménage chez moi à la maison, oui, il y en a qui vont avoir un peu de considération, mais en général, pas beaucoup. On a un rapport parfois avec les gens qui travaillent avec nous, un rapport de dureté, on contrôle leur travail, on veut qu'ils fassent leur travail, on exige des choses. Mais nous sommes serviteurs, mais pas simplement serviteurs. Jean chapitre 15, verset 15. Regardez. « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami. » parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. C'est donc un service amical, pour autant que cela peut se dire. Nous sommes appréciés par celui qui nous a engagés. Pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que c'est... Comment comprendre cette volonté de Dieu d'avoir des serviteurs qui sont ses propres enfants? Une des raisons, je ne vais pas donner des versets bibliques là-dessus, mais juste vous le dire, une des raisons, c'est que c'est important que nous travaillions en connaissant celui pour qui nous travaillons. Vous êtes d'accord? C'est plus sécurisant et nous sommes plus efficaces dans le travail. Et nous restons vraiment le plus fidèle, le plus proche possible des intentions de celui qui a fait le travail. La Bible distingue l'idée de connaître Dieu et de servir Dieu. Nous avons parlé de connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est vraiment entrer dans une intimité avec lui. C'est vraiment en faire le Seigneur qui est dans notre cœur, dans notre vie. Pourquoi cette connaissance est importante? Parce que c'est elle qui va conditionner notre façon de travailler pour lui. Plus je connais profondément mon Père Céleste, plus évidemment le travail que je fais pour lui est un travail que je fais en connaissance de cause. Moins je le connais, plus je ressemble à un mercenaire. Parce qu'un mercenaire, c'est quelqu'un qu'on engage pour un boulot, mais il est là juste pour ce travail. Et c'est tout. Et s'il y a, dans l'exercice de ce travail-là, il y a quelqu'un qui vient qui lui dit, mon ami, je peux te payer plus que ça, arrête ce travail-là. Le mercenaire, il arrête le travail, il va chez celui qui le paye plus, c'est tout. Mais lorsqu'on est enfant de Dieu dans le travail de son père, et que quelqu'un vient nous débaucher, on dit, non. Moi, c'est le travail de mon père. Et je vais pleurer quand le travail ne va pas bien. Je vais me sentir touché, je vais me sentir mal quand ce travail n'avance pas. Parce que ça fait partie de notre histoire familiale, ça fait partie de notre famille. C'est pourquoi c'est bon. Souvenez-vous de l'entretien de Marie et Marthe, de Jésus avec Marthe et Marie. Souvenez-vous. Qu'est-ce qu'il lui dit? Marie a choisi la part qui est la meilleure et qui ne lui sera pas ôtée. Quelle était cette part-là? S'asseoir au pied du Seigneur pour un temps de communion avec lui. Souvenez-vous encore, lorsque Jésus dit, plusieurs d'entre vous viendront et diront, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé les démons, nous avons fait ci. Il va vous dire quoi? Retirez-vous de vous, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que la connaissance est plus importante que le service que nous pouvons rendre à notre Seigneur. Connaître donc est important. C'est pour ça que nous travaillons dans une dimension où nous sommes les enfants du Père. Nous sommes dans une entreprise familiale. Premier élément donc, et je m'arrête je vais m'arrêter ici pour ce premier élément, c'est de dire que pour être un serviteur dans l'église locale, il faut être né de nouveau. Il faut être chrétien, né de nouveau. Deuxième élément de réponse, nous allons le trouver à travers la parabole de talents. Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. Waouh, ça va être sportif. Je t'ai donné le verset 30 ou bien je t'ai donné... Voilà, très bien. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un troisième, 1 à au troisième, et chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un, alla faire un trou, alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi. Il dit, « Seigneur, tu m'as remis deux talents. Voici, j'en ai gagné deux autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle. Serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite. Il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. » Que tu moissonnes, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et là, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y a des pleurs et des grincements des dents. Je ne prêche pas sur cette parabole. Ce serait très intéressant d'y prêcher et je pense que personnellement je serais incapable de prêcher ça en une fois. Mais je vais juste épingler certains éléments qui nous aident dans notre identification de qui peut servir dans l'église locale. Il y a là 3 choses importantes qui se dégagent de ce texte et qui peuvent nous aider à voir les qualités, les 3 qualités qui apparaissent dans ce texte, qui peuvent nous aider à être le meilleur serviteur possible pour le Seigneur. Alors, j'aimerais juste d'abord préciser que le talent ici dont on parle, il s'agit de l'argent. Hein? Il ne s'agit pas du talent, comme nous disons, le talent des mises. Donc, c'est pas ce truc-là que vous aimez bien regarder, la Got Talent, le truc des Américains là où on évalue les talents des gens pour donner des points, etc. Ce n'est pas le talent en termes de ce que nous. Nous sommes, en quelque sorte, les petites choses dont nous sommes doués. Il ne s'agit pas de ça ici, du moins dans la parabole, mais la signification, bien sûr, ça peut se rejoindre. Le talent dont il est question ici, c'est de l'argent. Est-ce que vous savez qu'à l'époque de Jésus, un talent, c'était une véritable fortune? Parce que un talent, ça représentait 6 000 deniers. Et vous savez que un denier, ça représentait le salaire d'une journée. Donc, un seul talent, ça correspondait à 20 années de travail. Waouh! On vous le donne tout de suite. Vous êtes bien, quoi. On peut prendre son temps, chercher le boulot dans plusieurs années. 20 années de travail que nous obtenons comme ça avec le talent. Ça veut dire que le talent est une richesse immense. Et nous sommes tous, en tant que serviteurs, dotés d'un ou de plusieurs talents. Ce qui veut dire que nous avons tous d'immenses, nous avons tous un trésor. Tout serviteur de Dieu a un trésor dès sa conversion, dès ce moment où il marche avec Dieu. Dieu ne nous équipe. Nous ne commençons pas notre marche chrétienne dans la pauvreté. Nous la commençons équipée, dotée. Nous avons des richesses. Nous sommes riches de quelque chose. Et qui dit richesse, qui dit trésor, dit possibilité. Qui dit trésor, dit quelque chose qu'on doit valoriser, qu'on doit rentabiliser, qu'on doit utiliser. Ça, c'est une première chose que je voulais relever ici. Et qu'est-ce que Dieu attend de ses serviteurs? Tu peux remettre le texte, s'il te plaît. Qu'est-ce que Dieu attend de ses serviteurs? Il leur donne, qu'est-ce que le maître attend de ses serviteurs? Il leur donne un talent et il attend qu'ils puissent, bien sûr, aller travailler sur ce talent. Il exige, il attend qu'ils exécutent leur tâche en donnant le meilleur d'eux-mêmes. Et vous remarquerez, ils vont le faire tout de suite. Ils vont pas attendre. Dès qu'ils reçoivent le talent, chou, ils y vont. Ils travaillent. Ils travaillent même là où ils ne doivent pas travailler. Ils travaillent même, je suppose, à des moments où ils ne doivent pas le faire. C'est une priorité dans leur tête. Il faut bosser, il faut bosser. Ils ne perdent pas le temps et ils ne regardent pas à l'énergie qu'ils dépensent pour ça. Ils travaillent. Ils font leur travail. C'est vrai qu'aujourd'hui, de nos jours, le travail est quelque chose que nous faisons un peu n'importe comment, hein. Si je me souviens toujours, ça m'avait frappé, hein. Quand j'étais encore étudiant, j'habitais sous la rue de Batty à Louvain-la-Neuve, et un matin, je me réveille, je suis dans la cuisine, là, en train de prendre mon petit déjeuner, et puis je vois les ouvriers communaux. Et il y en avait trois. Il y en avait un qui était sur l'arbre. Il y en avait un autre qui était comme ça sur l'arbre, penché sur l'arbre comme ça, et un autre qui était devant une espèce de bac où on ramasse les feuilles, et ils parlaient les trois. Et pratiquement, j'ai regardé toutes les 3-4 minutes, les 5, tout, ils coupaient une branche. Et la branche tombait, ding, dans le bassin. Et si par hasard la branche était tombée à côté, c'est celui qui est comme ça là, qui arrête, qui va, qui le prend et qui le met dans le bac. Et il continue à causer. Et le truc a duré pendant une heure. Je me suis dit, waouh. L'humain, attention, ne rigolez pas d'eux, parce que nous sommes tous comme ça. Hein. Si on nous donne un travail et que le patron n'est pas là pour vérifier, et que c'est un travail qui nous semble cool, nous semble facile, qu'est-ce qu'on fait? On fait un peu, hein. Je ne fais pas beaucoup. Hein. Pourquoi on va faire beaucoup? Ça, c'est l'humain. Et pourtant, le travail que le maître attend de ses serviteurs, ça va plus loin que simplement d'avoir à faire le travail strictement parlant. Ça va plus loin encore. Donc ici, une première chose qui se dégage de la qualité d'un serviteur, c'est que un serviteur doit être sérieux et ardent dans son travail. Ce que Dieu veut, c'est ça, c'est le sérieux et l'ardeur au travail. Quelqu'un qui ne travaille pas à la légère, qui ne s'amuse pas, mais qui fait son boulot avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de considération pour Dieu. Quelqu'un qui fait son travail d'une manière ardente, passionnée, motivée, déterminée, il veut avoir du résultat pour son maître. Il veut du résultat. Il ne s'arrête pas. Il court jusqu'à ce qu'il ait fait tout ce qu'il avait à faire. C'est ça que Dieu recherche. Et regardez le mauvais serviteur. Il est paresseux. Et c'est comme ça que le maître l'appelle. Paresseux et mauvais. Il est paresseux et son cœur est mauvais. Pourquoi? Parce qu'il a fait comme nos amis, les ouvriers communaux. Il a fait la même chose. Il a évalué le travail. Ouh! Je dois faire tout ça. Je dois rapporter l'équivalent de 20 années de travail. Ouh! Faire ça en quelques temps. Ah, non. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Je serai fatigué. J'ai la tension. Et puis, j'ai la tendinite ici depuis longtemps. Aïe, j'ai mal. Non, je peux pas. Non, c'est beaucoup trop. Alors, il faut trouver un prétexte. Ah, le prétexte, c'est le boulot qui est pas bien. C'est dégueulasse quand même de me donner un temps de travail. Ce maître, il est méchant. Il n'est pas gentil. Comment il peut donner du travail comme ça aux gens? Alors, évidemment, moi, je ne le fais pas. Et donc, il trouve des prétextes et il justifie son choix en disant que le maître est dur, que le maître a exigé quelque chose de trop dur pour lui, qu'il en a eu peur, et le voilà qui a arrêté. C'est donc quelqu'un qui rechigne à travailler, quelqu'un qui trouve des difficultés à travailler, et malheureusement, parfois, il y a des gens comme ça. Dans nos sociétés d'aujourd'hui, ce serait l'équivalent de quelqu'un qui rechigne à travailler, qui critique le travail des autres, qui critiquent son emploi, son travail. Il y a des gens qui vont au boulot, qui critiquent le boulot qu'ils font. Ils ne sont pas contents, ils se plaignent, mais quand même, ils sont contents de recevoir le salaire à la fin du mois. Ça, oui. Ils sont quand même contents d'aller voir le syndicat quand ils commencent à avoir des difficultés au niveau du boulot. Mais ils critiquent le boulot. Ils critiquent le patron. Ils critiquent les collègues. Ils ne sont pas contents. Jamais contents. Jamais. Jamais. Ils cherchent le défaut des autres. Et quelle est la récompense de ce genre de personnes? Évidemment, c'est l'exclusion. C'est le rejet. C'est même le fait d'être arraché. Le fait qu'on arrache même le talent qu'il avait. Peut-être que, au lieu de dire, oh pauvre homme, moi je suis pas comme ça, peut-être ce serait bien de se dire, ouf, et moi, comment suis-je dans mes rapports avec les autres, dans mes rapports avec ce que Dieu attend de moi, dans le travail que j'ai à faire avec lui? Suis-je concentré à ma tâche? Suis-je sérieux avec ma tâche? Je parle pas d'être sérieux avec les autres, je parle d'être sérieux avec ma tâche. Je connais des gens qui sont prêts, s'il le faut même, pour le travail qu'ils font, à sacrifier tout le reste. Parce que pour eux, travailler pour Dieu est important. On raconte cette histoire avec un des serviteurs d'un roi de France qui s'était converti. Il s'était donné comme exigence d'abord de prier et de lire sa Bible avant d'aller servir le roi. Bien sûr, il avait planifié son tas. C'était un écuyer, je crois. C'était un écuyer du roi. Donc, le temps était bien sûr calculé avec les habitudes du roi. Mais un jour, le roi avait changé un peu l'habitude. Au lieu de chercher l'écuyer à l'heure à laquelle il le cherche, il a cherché un peu plus tôt. Et alors, on est allé chercher l'écuyer, mais avance le cheval du roi, le roi doit partir. Et on attendait. Et puis finalement, le roi s'est fâché. Il est allé lui-même jusqu'à l'écurie. Et il a trouvé le gars là-bas. Et il a dit, mais pourquoi est-ce que t'es pas venu tout de suite quand je t'ai appelé? Il lui a répondu, messire Dieu, premier servi. Et le roi a dit, waouh! Eh ben, mon ami, désormais, je te laisserai toujours faire comme ça. Si c'est ça vraiment ton principe. Il n'a pas eu peur qu'on peut lui couper la tête. Pour lui, servir Dieu était une priorité pour laquelle il était prêt à mourir s'il le fallait. Quelle est notre attitude à nous? Par contre, ça c'est la première exigence. Première exigence, premier élément de réponse, le sérieux, l'ardeur dans le travail. Voici les deux autres éléments. Regardez comment le maître va dire de ses serviteurs. Versets 21 et 23. Au premier, il dit, c'est la même chose, ce sont les mêmes phrases. Tous ceux qui ont rentabilisé leur talent, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Deux autres qualités auxquelles le Seigneur s'attend, qui sont exigées en tant que serviteur, la bonté et la fidélité. Bon et fidèle serviteur. C'est quoi un serviteur bon? Un serviteur qui est bon, c'est un serviteur qui travaille, qui accomplit son travail avec des bonnes dispositions de cœur. Son cœur n'est pas un cœur qui calcule. Il fait pas le boulot en disant, je le fais pour gagner ceci. Je fais ça parce que je veux obtenir ça. Je manipule ici comme ça pour avoir ça. Non, c'est quelqu'un qui fait son travail, qui le fait pour Dieu sans calculer. Sans se dire, je fais ça pour ceci. C'est pas quelqu'un qui travaille en regardant le travail des autres et en râlant sur le travail des autres. C'est pas quelqu'un qui va réchigner sur les heures supplémentaires. On lui dit, ben, il faut encore travailler un peu plus. Non. Faut travailler un peu plus. Ok, d'accord, j'y vais. On y va. Qui est toujours enthousiaste pour travailler dans le travail. Un bon serviteur ne va pas aller se plaindre ni murmurer. D'ailleurs, nous verrons que la plainte et la murmure et les murmures, c'est la caractéristique des gens qui pensent qu'ils ont des droits. Oui ou non? Oui ou non? Je ne me plains, je ne murmure que parce que je sais que j'ai des droits. Mais si j'ai pas des droits, pourquoi je me plaindrai? Pourquoi je murmurerai? Je vais pas le faire. Voyez? Un serviteur, un bon, il fait le travail par amour pour Dieu. Pour l'amour de Dieu et pour l'amour des autres. C'est tout. C'est dur, il s'en plaint pas. Ça va pas, il ne commence pas à dramatiser, il cherche les solutions, il avance. Il cherche pas, il n'est pas source des problèmes, il est source des solutions, pas des problèmes. Deuxième caractéristique, deuxième qualité, la fidélité. Le temps me manquerait de parler de la fidélité à serviteur fidèle. Le temps me manquerait d'en parler. Vous savez beaucoup de choses sur la fidélité. Beaucoup d'entre vous ont été fidèles dans cette église. Vous avez fidèlement bâti cette église, vous avez construit fidèlement cette église. Vous avez été fidèles dimanche après dimanche, beaucoup d'entre vous. Vous avez été fidèles à cette église au moment où beaucoup ont quitté cette église. Vous avez été fidèles à cette église au moment où il y a eu parfois des responsables, des conflits, des situations intenables dans cette église. Vous êtes restés fidèles. Je parle de cette fidélité-là, mais je parle de l'autre fidélité. Cette fidélité qui vous a justement conduit jusque maintenant, à savoir le fait de tout faire pour que son travail aboutisse avec succès. Le fait d'avoir la détermination de tenir la route qu'on a choisie et d'aller jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. C'est ce qu'on demande à un homme et à une femme dans le mariage. C'est d'être fidèle au point de tout faire pour que le mariage aboutisse avec succès jusqu'à la mort, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ça veut dire, quand on dit qu'on va tout faire, ça veut dire qu'on va affronter des difficultés. Il y aura parfois des choses qui vont m'amener à se dire, punaise, quoi. Mais pourquoi je me suis marié avec ce personnage? Ça peut arriver un moment où je me dis, waouh, mais est-ce que c'était vraiment le bon moment? Peut-être que j'étais pressé. Il y aura des tas d'éléments qui vont nous amener à nous remettre en question, nous dire, j'ai fait fausse route. Mais la fidélité, c'est tenir, 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 jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et d'autres, dans leur fidélité, n'ont même pas vu le succès. Souvenez-vous de tous ceux qui ont été persécutés, de tous ces hommes qui ont été tenus en haleine et qui ont été malmenés à cause de l'Évangile et qui n'ont jamais vu le bonheur, dont la vie a été constamment une souffrance. Je pense à ce pasteur dans le milieu communiste, là, Richard von Brandt. Il n'a connu que des misères, ce pauvre homme. Et quand il a été un peu délivré, il en est mort, des souffrances. Mais la tenue, bon, la fidélité, c'est pas le résultat qui compte, c'est l'état d'esprit. Et c'est ça que Dieu recherche. Et je m'arrête là ce matin. Nous allons reprendre encore sur la fidélité parce que c'est super important. Mais la qualité donc, les trois qualités donc d'un serviteur de Dieu, les trois qualités, c'est d'abord le sérieux et l'ardeur au travail. Ensuite, la bonté dans le service. Et enfin, la fidélité dans le service. Ce sont les trois qualités. À côté de ça, nous avons vu que pour être serviteur, il faut être né de nouveau. Parce que c'est une entreprise familiale. Ce sont les enfants de la maison qui connaissent bien leur père, qui travaillent pour leur père. Leur père leur donne du travail. C'est lui qui détermine. J'ai occulté un verset ici, mais vous remarquerez, tu peux remonter un peu, juste ce texte ici, Matthieu 25. Vous allez voir un petit élément qui conforte ce que je viens de dire. Quand on remonte, il dit, regardez, verset 15, « Il donna 5 talents à chacun, à l'un, 2 à l'autre, et au troisième, et c'est-à-dire comment ? À chacun selon sa capacité. » C'est un père qui nous connaît. Il sait ce qu'il doit nous donner comme charge, comme fardeau, pour que ça ne nous pèse pas trop, pour que ça soit ce qu'il nous faut. Et c'est pour ça que le mauvais serviteur n'a pas d'excuse. Il est condamnable. Prions. Seigneur, merci pour ta parole et nous voulons te demander que tu nous guides encore et encore à prendre bien conscience de notre rôle, de notre importance, de l'importance que nous avons, mais aussi surtout de la manière de faire les choses. Parce que ce qui est important pour toi, ce n'est pas seulement le service que nous te rendons, mais c'est le service de qualité. Tu recherches la qualité dans le service que nous faisons pour toi. Alors aide-nous à le faire d'une manière qualitative pour l'avancement de ton royaume. Au nom de Jésus. Amen.